Bonjour Gonéry Le Cozanet.
Bonjour Madame Gaillet.
Gonéry Le Cozanet, vous êtes chercheur au BRGM, le Bureau des recherches géologiques et minières. Vous avez participé à la rédaction du rapport du GIEC sur les chapitres Europe et Méditerranée. On y vient, les experts du climat de l'ONU, le GIEC, donc, a publié hier un rapport sur les impacts du changement climatique et les conclusions sont accablantes pour la planète et nos dirigeants. Pêle-mêle, on retient que près de la moitié de la planète est déjà dans une situation très vulnérable, qu'un milliard de personnes pourraient vivre d'ici 2050 dans des zones côtières menacées par la montée des eaux, que jusqu'à 10-14% des espèces terrestres sont menacées. Alors avant d'entrer dans le cœur de ce rapport, Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, a dit hier « J'ai vu des nombreux rapports scientifiques dans ma vie, mais rien de comparable à celui-ci. » Vous qui avez travaillé dessus, Gonéry Le Cozanet, vous diriez la même chose ?
Oui, alors tout d'abord, je pense qu'il faut préciser que ce rapport, c'est un rapport qui a été écrit par 270 scientifiques pendant 4 ans, qui ont reviewé, qui ont fait l'étude de 34 000 publications. Donc c'est vraiment un rapport, en fait, qui est la meilleure synthèse dont on dispose aujourd'hui sur les impacts du changement climatique et les moyens de s'y adapter. Alors effectivement, ce rapport, il est alarmant. Et pourquoi ? Tout simplement parce que le changement climatique se poursuit et parce que les conséquences du changement climatique pour l'homme et les écosystèmes, ils sont de plus en plus perceptibles en Europe et dans le monde. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qui avait été prévu et c'est quelque chose qui est en train de se réaliser.
Alors, le BRGM où vous officiez, Gonéry Le Cozanet, étudie les sols et les sous-sols. Dans ce rapport, hein, je l'ai dit, vous avez travaillé sur l'Europe et la Méditerranée. Si on devait donner un coup de jumelle pour bien comprendre, pour qu'on ait une idée concrète de ce qui est en train de se passer, on irait où et on montrerait quoi ?
Alors, en fait, on peut aller partout dans le monde, mais en Europe, il y a 4 risques clés qui sont identifiés. Ces 4 risques clés, ce sont les vagues de chaleur et leurs conséquences pour la mortalité, la morbidité des personnes et les écosystèmes. L'agriculture, c'est-à-dire des pertes de rendement agricole dues aux vagues de chaleur et aux sécheresses. Des pénuries d'eau, notamment dans le sud de l'Europe, avec des conséquences, par exemple, pour le secteur de l'énergie, pour l'agriculture également. Et des inondations côtières liées à l'élévation du niveau de la mer et des inondations continentales qui sont liées, en fait, aux inondations pluviales, en fait. Donc, typiquement, vous nous parliez du BRGM qui est situé à Orléans. Ben, il y a, en 2016, nous avons eu un événement extrême qui était des pluies très intenses début juin qui ont conduit en fait à l'inondation dans le Loiret, dans la région parisienne. Et on a eu des événements en cascade suite à ces événements de pluie. C'est-à-dire on a eu des cavités souterraines qui se sont rouvertes, qui ont rendu inhabitables certaines zones d'habitation. Ça, c'est des dégâts qui sont de l'ordre du milliard d'euros. Donc typiquement, ça, ce sont des événements qui sont plus fréquents avec un climat qui s'est réchauffé de 1 degré. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, lorsque le climat se réchauffe de 1 degré, vous avez 7% de plus d'humidité dans l'atmosphère. Et cette humidité dans l'atmosphère se retrouve principalement sous la forme de précipitations extrêmes. Alors ce qu'on peut faire également, le constat quand même, c'est que le climat change. Mais l'adaptation progresse également en Europe et dans le monde.
J'allais y venir, Gonéry Le Cozanet. Ce rapport parle beaucoup de l'adaptation, ce qui n'était pas le cas dans le précédent rapport.
Oui, ça c'est vraiment, je pense, une nouveauté. Alors, on a vraiment essayé de mettre en avant les solutions. Alors, c'est des solutions d'adaptation et on fait le constat que l'adaptation progresse, qu'elle demeure insuffisante face à la rapidité des changements climatiques. Et d'autre part, en fait, on a vraiment essayé de mettre en évidence toute une série de mesures d'adaptation qui s'appliquent à toute une série de secteurs et de manière à évaluer leur faisabilité, leur efficacité, dans quelle mesure il y a des limites à l'adaptation au-dessus d'un certain seuil de changement climatique. L'adaptation seule est insuffisante pour contenir l'augmentation des risques, même en Europe, qui n'est pourtant pas la zone la plus vulnérable dans le monde. L'Afrique est beaucoup plus vulnérable. Et ça, en fait, je pense que tout le monde peut s'en emparer, en fait. Que vous soyez un acteur privé, que vous soyez un maire d'une commune ou dans un département, c'est vraiment une boîte à outils qui peut être utile pour favoriser l'adaptation.
Alors, soyons concrets, Gonéry Le Cozanet. On parle, par exemple, de la montée des eaux. Le niveau de la mer va s'élever. Est-ce que, par exemple, pour des zones côtières, il faut ériger des digues ou est-ce qu'il faut déplacer des habitations ?
Voilà. Donc, en ce qui concerne l'élévation du niveau de la mer, il y a 2 actions très rapides à mener, en fait. Hein. Le rapport le montre. Il y a tout d'abord limiter le changement climatique pour stabiliser l'élévation du niveau de la mer. Donc, vous ne pouvez pas arrêter l'élévation du niveau de la mer si vous arrêtez si vous arrêtez les émissions de gaz à effet de serre. En fait, le niveau de la mer, il y a une inertie terrible, en fait. Le mieux que l'on puisse faire, c'est stabiliser l'élévation du niveau de la mer autour de 4 mm par an en atteignant finalement, en stabilisant le climat à 1,5 degré ou 2 degrés. Et la deuxième chose à faire, c'est l'adaptation. Et donc l'adaptation, ça dépendra des sites en fait. C'est-à-dire qu'il y a certains sites où on ne pourra faire autrement que de protéger et peut-être avec des méthodes d'ingénierie. Mais il y a beaucoup d'autres sites en fait où on pourra utiliser les écosystèmes côtiers et notamment par exemple le fait de laisser la Posidonie sur les plages en Méditerranée pour limiter l'érosion.
La Posidonie, c'est quoi?
Oui, c'est des algues en fait, c'est des herbiers en fait, c'est des herbes marines qui se déposent que l'on peut laisser sur la plage, ou alors favoriser les marais côtiers, éviter de construire sur ces marais. En fait, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que pour l'adaptation côtière, par exemple, on utilise beaucoup de techniques d'ingénierie, et donc cette adaptation, elle se fait au détriment des écosystèmes.
Quand vous dites quand vous dites ingénierie, c'est des digues, c'est ça?
C'est des digues, c'est des épis, c'est des enrochements, c'est ce genre d'infrastructures.
Et ça, c'est pas forcément la chose la meilleure, en fait.
Alors, le rapport, en fait, il met en évidence que, en fait, l'homme et les écosystèmes sont interconnectés, en fait. Donc, il y a un message qui est extrêmement fort dans le rapport, qui est, en fait, pour favoriser les écosystèmes, il faudrait laisser entre 30 et 50% de l'espace disponible aux espèces, aux écosystèmes. Et ça, en fait, que ce soit les écosystèmes marins ou les écosystèmes terrestres. Donc, avec un très haut niveau de protection. C'est-à-dire des zones dans lesquelles on n'intervient pas, en fait. Il y a un rapport complémentaire, qui est, en fait, l'IBES, qui est le GIEC de la biodiversité, qui travaille sur ces questions-là, notamment.
Est-ce qu'on est suffisamment préparé? On parle d'adaptation. Est-ce qu'on s'y prépare suffisamment? Est-ce qu'on l'est?
Alors, aujourd'hui, ce qu'on constate, en fait, c'est qu'il y a de l'adaptation, mais qu'elle est insuffisante. Par exemple, on le voit sur la question de l'élévation du niveau de la mer, en fait. On voit qu'en Europe, il y a des scénarios du niveau de la mer qui sont considérés, mais ils sont utilisés de manière extrêmement différente. En France, c'est utilisé pour les plans de prévention des risques, pour limiter l'urbanisation en zone basse, qui est effectivement une mesure tout à fait raisonnable. En Hollande et en Angleterre, on les utilise beaucoup, en fait, pour des mesures à extrêmement court terme et d'autre part pour faire du stress test sur des infrastructures critiques. Voilà. Personne n'a en fait la panoplie complète de l'élévation du niveau des mesures qu'il faudrait prendre pour l'élévation du niveau de la mer. Nos collègues australiens et néo-zélandais, par exemple, ont mis en évidence que chez eux, il y avait un problème de gouvernance lié à cette élévation du niveau de la mer. C'est-à-dire que les acteurs publics et privés sont très désorganisés face à ces problèmes, face aux submersions à marée haute qui interviennent de plus en plus souvent en Australie et en Nouvelle-Zélande. Et donc, cette question de la gouvernance, pour eux, est une barrière à l'adaptation qui est mise en avant dans leur rapport.
Merci Gonéry Le Cozanet, chercheur au BRGM et co-auteur du deuxième volet du rapport du GIEC. Merci pour ces précisions. On aura encore plein de questions à vous poser, mais le temps passe. Et merci aussi à nos confrères de France Bleu Orléans pour la réalisation de ce duplex. Merci.